Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Bonjour. Dans cette chronique des temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail, j'ai décidé de vous parler cette fois-ci du rôle d'un député. Pour ce faire, j'ai choisi d'en interviewer un, bien sûr. Et pour éviter toute polémique éventuelle, j'ai choisi un député sortant qui n'est pas dans notre département. Et par facilité pour moi, un que je connais, c'est évidemment plus facile, et qui est depuis 40 ans sans faille aux côtés des travailleurs. J'ai donc au bout du fil Jean-Paul Lecoq, député du groupe communiste, élu sortant sur une circonscription de Seine-Maritime. Bonjour Jean-Paul Lecoq.
Bonjour Philippe.
Alors on se tutoie hein, parce qu'on se connaît depuis longtemps. Alors une première question générale. Qui décide de quoi entre le président de la République, le gouvernement et l'Assemblée nationale? Qui décide dans tout ça?
Je vais répondre à la question, mais je vais faire comme un homme politique. Je vais d'abord me présenter. Donc tu l'as dit, je suis député de Seine-Maritime, mais ma formation, c'est aussi une formation d'électricien. J'insiste là-dessus parce qu'on n'est pas nombreux à l'Assemblée nationale à avoir un CAP d'ouvrier. Et c'est plutôt pas mal de le montrer. Ce serait bien qu'il y en ait plus. Et puis je suis issu aussi, avant de m'engager dans la vie politique, je suis issu de la vie associative. Et puis ensuite, je me suis engagé dans la vie politique aux côtés des communistes. Je suis membre du Parti communiste depuis un paquet d'années. Et j'ai été maire du Gonfreville-Lorcher, qui est une ville à côté du Havre, pendant 24 ans. Donc voilà, ça donne un petit peu mon histoire et ça permet de caler mon âge aussi. Voilà, je suis plutôt jeune, mais je suis pas encore vieux. Et j'ai encore du temps, parce que comme on voit le président des États-Unis, qui est président à un âge très avancé, je me dis que je suis à la moitié de ma vie professionnelle et politique. Je referme la parenthèse et la blague. Alors, qui décide de quoi?
Nous expliques la différence, qui décide de quoi, entre le président de la République, le gouvernement et l'Assemblée nationale. Qui prend les décisions dans tout ça?
Alors, il y a la théorie et il y a la pratique. La théorie, c'est le président préside, le gouvernement gouverne et l'Assemblée nationale décide, puisque ce sont les représentants du peuple, et que dans notre République, c'est le peuple gouverne dans l'intérêt du peuple. Les représentants du peuple gouvernent au nom du peuple et pour le peuple. Ça, c'est la théorie initiale de la Révolution française. Et puis, il y a la pratique, et je vais parler de ce que je connais mieux, c'est-à-dire la pratique du dernier mandat présidé par Emmanuel Macron, où là, c'est le mélange des genres. Dans la Constitution, on dit qu'il y a la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, et le judiciaire, c'est-à-dire la justice et la police. Et là, on a eu une fusion des genres entre le président, l'exécutif et le législatif, à tel point que les collègues députés de La République En Marche, alors, nous a présenté ces candidats comme étant des gens issus de la société civile, etc., et en fait, on a des candidats qui sont des, j'allais dire, presque le service technique de l'Élysée. Moi, quand je discute avec eux, à un moment donné, on a eu un échange sur qui représente quoi. Moi, je disais que je suis représentant du peuple, et eux s'assumaient comme représentants du président de la République à l'Assemblée nationale. Et c'est là où il y a le gros problème. On ne peut pas être à l'Assemblée nationale le représentant du président de la République. On est éventuellement la majorité du président au service de la politique qui a été imaginé par le président de la République, mais on n'est pas ses représentants. Donc aujourd'hui, c'est l'Élysée, enfin ces cinq dernières années, c'est l'Élysée qui a décidé et qui avait pour ce faire une majorité absolue de son camp, même s'il était allié avec le Modem, mais il pouvait s'en passer, une majorité absolue de son camp pour voter. Nous, on blaguait un peu, on disait que c'était des Playmobil, parce que chaque fois qu'il y avait quelque chose, ils levaient tous la main quasiment simultanément. Et donc, ils votaient tous les lois qui devraient être préparées dans les ministères ou qui devraient être proposées par des députés, parce que c'est le principe. Et beaucoup, y compris, on voyait les réactions des ministres, on avait l'impression que les lois étaient préparées ailleurs, et on pense qu'ils étaient préparés plutôt à l'Élysée, par les conseillers de l'Élysée, et que le vote était garanti d'avance. Je crois que c'est une des législatures où il y a eu le moins d'amendements acceptés par les ministres, quoi. Tellement ça devait être préparé d'avance et tellement c'était intouchable.
Alors, je vais être plus précis, par exemple, dans le domaine du social, puisque on a vu que le gouvernement gouverne, le président préside et l'Assemblée nationale décide. Alors, un exemple concret, même deux exemples concrets. Le niveau du SMIG ou l'âge de la retraite, qui est-ce qui décide?
Alors, moi, je vous ai expliqué la théorie. Et puis, il y a aussi ce qui ne se voit pas. Je vous ai expliqué ce qui se voyait. Après, moi, j'ai le sentiment que le pays est plutôt gouverné par, je vais résumer, par les multinationales, par les grandes entreprises françaises, plutôt que par, à travers leurs représentants, hein, le président de la République qui les représente, le gouvernement qui les représente, plutôt que par l'Assemblée nationale qui porte la voix du peuple et qui dirige. Et donc, sur les questions de l'âge de la retraite, sur les questions du SMIC, c'est l'Assemblée nationale qui doit décider sur proposition du gouvernement. Si on augmente le SMIC et à quel âge on part en retraite. Ça, c'est le vote, c'est dans une démocratie, c'est comme ça que ça doit se passer. Or, des forces économiques, des lobbies, même si les règles à l'Assemblée nationale ont fait qu'ils n'avaient plus de, entre guillemets, d'entrée privilégiée à l'Assemblée nationale pour pouvoir influencer les députés, ça existe toujours. Il y a des rencontres sous forme de colloques, etc. Et quand on va dans ces rencontres, on a en face de soi des représentants du patronat qui vous expliquent les enjeux à venir pour leur corporation et qui vous expliquent les votes qu'il faudrait que vous ayez sur tel amendement, sur telle loi, sur telle loi. C'est-à-dire que cette influence du monde économique et notamment du monde patronal, elle existe toujours. Elle est présente, moins assumée qu'auparavant. Il faut comme si ça n'existait pas, mais elle est présente. Et donc, on nous explique que cette discussion-là, ça devrait être les relations entre les syndicats, le patronat, le gouvernement qui devraient élaborer des évolutions. En fait, c'est dans ces partenaires sociaux, c'est plutôt le partenaire patronal qui influence le gouvernement et pas forcément les partenaires salariés, les syndicats salariés qui, au contraire, sont obligés toujours pour faire avancer une question les concernant et à leur profit. Meilleur partage des richesses, par exemple. Ben, ils sont obligés de descendre dans la rue parce qu'ils ne sont pas entendus justement à l'occasion de ces réunions. Parce que le rapport de force n'est pas à l'avantage des plus nombreux, il est à l'avantage des plus puissants.
D'accord. Alors donc je reste sur mon sujet, moi, sur l'Assemblée nationale. Et il y a 577 députés. Donc il y a des votes pour décider donc des lois en particulier, une majorité. Alors c'est quoi la situation pour la législature qui vient de se terminer, puisqu'il faut donc des majorités, et quels sont les enjeux par rapport au futur?
Je l'ai un peu expliqué, je pense qu'à chaque fois que ça s'est mal passé dans l'intérêt du peuple français, c'est parce que le président de la République avait une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et là, généralement, il ne fait plus l'effort, l'exécutif, président et gouvernement, ne font plus l'effort d'écouter la voix des députés, donc quelque part d'écouter la voix des citoyens français à travers les députés, et ils décident tout seul pendant la totalité du quinquennat. Et c'est pas réservé à Emmanuel Macron, hein. Je pense que le quinquennat de François Hollande s'est passé de la même manière, le quinquennat de Nicolas Sarkozy s'est passé de la même manière, on pourrait en citer d'autres. Donc, moi, je pense qu'une vraie démocratie, c'est une démocratie qui justement ne s'appuie pas sur un parti unique, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, quand il y a un seul parti qui a la majorité absolue à l'Assemblée nationale, ça donne une politique comme s'il y avait un parti unique, même s'il y a un semblant de démocratie, parce qu'on a le droit de dire ce qu'on veut, on a le droit d'écrire ce qu'on veut, etc. Bon, ça, c'est à chaque fois qu'on dit « vous décidez tout seul », on nous dit « ouais, mais on est dans une démocratie parce que vous avez le droit de dire ce qu'on veut ». D'accord, j'entends. Mais on devrait aussi avoir le droit d'être entendu parce qu'on représente un territoire et parce qu'on est la voix du peuple. Et c'est pas le cas. Donc, sur ces 577 députés, les enjeux futurs, c'est de dire est-ce que le président de la République a à nouveau tout seul une majorité absolue? Est-ce que le président de la République a en face de lui une majorité qui n'est pas de sa couleur politique et qui n'est pas d'ailleurs une majorité forcément d'un seul parti, qui peut être une majorité d'un groupe de formation politique? Qui l'oblige dans ces cas-là à discuter, à négocier, à écouter, à trouver un consensus et tout. C'est ce qui se passe dans plein de démocraties en Europe, ça. C'est-à-dire que d'obliger justement l'exécutif à entendre les différents échanges et à en tenir compte les avis des uns et des autres pour élaborer un texte de loi, pour construire des solutions aux maux de la société, et eh ben ce serait pas inintéressant d'avoir ça. Donc là, en fait, puisqu'on est en période électorale, il y a les gens ont voté pour le président de la République, ils peuvent penser que c'est terminé, alors que normalement c'est le Parlement qui prend les décisions et l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Et donc on pourrait se dire qu'il y a à nouveau une élection dont l'enjeu est très important dans l'intérêt de la population. C'est soit on conforte le président de la République en lui donnant une majorité absolue, soit on considère que on va donner une majorité à d'autres, et il faudra que les uns et les autres composent. Et comme les citoyens disent toujours, vous ne pouvez pas essayer de trouver le point commun dans l'intérêt du peuple. Et souvent les gens nous disent ça, quand ils critiquent la politique, ils disent « Ah, mais il y a des idées bonnes de chaque côté, etc. » Bah, si on ne donne pas une majorité absolue à une seule idée, ça oblige à travailler ensemble, et ça oblige à construire des choses qui, à mon avis, seraient moins pires pour l'avenir.
D'accord. Alors, on va faire une petite pause musicale et on va revenir donc vers Jean-Paul Lecoq pour lui demander quel est le rôle d'un député et tant qu'à faire, le rôle d'un bon député. Donc, on a une petite coupure musicale et on revient vers Jean-Paul Lecoq, député sortant.
Le peuple en ce jour sans cesse répète
« Ah ça ira, ça ira, ça ira !»
Malgré les butins, tout réussira. Nos ennemis confluents restent là, et nous allons chanter Alléluia.
« Ah ça ira, ça ira, ça ira !»
Quand Boileau jadis du clergé parla, comme un prophète il a prédit cela, en chantant ma chansonnette. Avec plaisir on dira, ah ça ira, ça ira, ça ira, ça ira, malgré les mutins, tout réussira.
Ah ça ira, ça ira, ça ira,
Pierrette et Margot chantent à la guinguette.
Ah ça ira, ça ira, ça ira,
réjouissons-nous, le bon temps viendra. Le peuple français, jadis acquis, l'aristocrate, timea culpa.
Ah ça ira, ça ira, ça ira,
le clergé regrette le bien qu'il a, et c'est justice, la nation l'aura, par le prudent Lafayette. C'est fini, tout trouble s'apaisera. Ah ça ira, ça ira, ça ira, ça ira, malgré les mutins, tout réussira.
Ah ça ira, ça ira, ça ira,
suivant la maxime de l'évangile.
Ah ça ira, ça ira, ça ira,
législateur tout s'accomplira. Celui qui s'élève, on l'abaissera, celui qui s'abaisse, on l'élèvera.
Ah ça ira, ça ira, ça ira,
le vrai catéchisme nous instruira, et l'affreux fanatisme s'éteindra, pour être à la loi docile. Et chaque Français s'exercera. Ah ça ira, ça ira, ça ira, ça ira, malgré les mutins, tout réussira. Le peuple en ce jour sans cesse répète
« Ah ça ira, ça ira, ça ira !»
Et dans 2000 ans, on s'en souviendra, le despotisme expirera, la liberté triomphera.
« Ah ça ira, ça ira, ça ira !»
Nous n'avons plus ni noble ni prêtre.
« Ah ça ira, ça ira, ça ira !»
L'égalité partout régnera, l'esclave autrichien le suivra. Ah ça ira, ça ira, ça ira, ça ira, et leur infernal cri que au diable s'envolera.
Ah ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra.
De retour dans la chronique des temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail, nous en étions à l'interview d'un député sortant, Jean-Paul Lecoq, qui est au bout du fil. Alors une question pour Jean-Paul Lecoq, c'est quoi le rôle d'un député, c'est quoi le travail d'un bon député ?
Très belle question. Le rôle d'un député, il y a tel que c'est décrit, dans la Constitution et dans les différents textes, c'est le premier, c'est de représenter son territoire, sa circonscription. Le deuxième, c'est de faire la loi, et donc normalement de faire des propositions de loi, d'amender les textes de loi qui sont proposés par le gouvernement. Et donc voilà, c'est de législateur. Et le troisième rôle, qui est un rôle très important, c'est celui de contrôler l'action du gouvernement. C'est-à-dire que les députés doivent pouvoir avoir accès à une multitude d'éléments qui permettent de vérifier si le gouvernement fait bien ce que la loi lui a demandé de faire, comment il le fait, et donc on peut l'interroger. Il y a des séances spéciales à l'Assemblée nationale, on appelle ça la semaine de contrôle, et où chaque groupe de parlementaires peut interpeller le gouvernement sur un thème. Ça peut être un thème national, ça peut être le thème des lois travail, par exemple. On pourrait interroger, parce qu'il y avait un petit temps d'adaptation, par exemple, dans la prochaine législature, on pourrait interroger le gouvernement sur, voilà, vous avez supprimé les CHSCT, quel a été l'impact dans les entreprises sur les questions de sécurité, sur les questions de bien-être au travail, sur les questions
de... Le contrôle est important, on a tendance à ne pas le connaître, hein, tout simplement.
Oui, c'est vrai, parce qu'il n'est pas visible publiquement, ce contrôle.
Voilà. Et donc, ma dernière question, un député, il est élu comment? Puisque tu as déjà évoqué un peu la question de la circonscription. Et en même temps, il représente la nation. Donc, ça s'articule comment, cette affaire-là?
Alors, aujourd'hui, les députés sont élus par circonscription. Avec un découpage de circonscription, c'est digne de la dentelle de Calais. Hein. C'est découpé. Ceux qui sont au pouvoir, en fait, au moment où ils redessinent les circonscriptions, souvent les redessinent à leur avantage, pour ne pas perdre le pouvoir. Et donc, ce qui fait que c'est là où tout commence, d'ailleurs, où l'Assemblée n'est pas représentative réellement du peuple, puisqu'il y a eu ce charcutage électoral qui est au service de ceux qui gouvernent. Donc ça, c'est issu d'un mode de scrutin. Moi, ma force politique, le Parti communiste et d'autres forces ont toujours milité pour que ce soit une représentation à la proportionnelle, pour que, voilà, que les forces qui sont à l'Assemblée nationale soient des forces qui représentent réellement la sensibilité qui existe dans le peuple au moment où a lieu l'élection. Alors, il y a eu un petit essai de proportionnel départemental, je crois que c'est en 93, il y a eu cet essai-là, donc c'était une proportionnelle, mais département par département. C'était déjà pas mal, mais je pense qu'on peut aller plus loin, on pourrait l'imaginer, même si on n'ose pas le faire à l'échelle nationale, le faire région par région. Maintenant, on a des grandes régions, ça va être intéressant. Et je pense qu'il faudra un jour revenir à la proportionnelle, parce que ce sera... D'abord, personne n'aura le pouvoir de manière absolue dans ces cas-là, à la proportionnelle. Il y aura obligation de s'entendre. Les détracteurs disent on va revenir à la 4e République, avec des coalitions impossibles, etc. Ça, c'est ceux qui n'aiment pas la recherche d'un consensus, etc. C'est ceux qui aiment avoir le pouvoir absolu. Qui plaident pour ça. Donc, si le peuple, à un moment donné, a envie d'être bien représenté et tout, il saura, à travers ses votes, chaque citoyen saura suivre l'idée d'une représentation à la proportionnelle. Je pense que c'est l'avenir de toute démocratie. La nôtre est malade, peut-être à cause de ce mode de scrutin, d'ailleurs.
D'accord. Donc, on a vu un vote par circonscription qui s'apparente au charcutage électoral. Hein, c'est ce qu'on avait dit à l'époque de Pasqua. Et on est toujours dans cette situation. Néanmoins, et je terminerai là-dessus pour ce qui me concerne, hein, les élections du 12 et 19 juin pour les législatives sont un enjeu majeur, puisqu'on a bien vu que c'est les députés, c'est l'Assemblée nationale qui décide des lois et donc c'est quelque chose à ne pas négliger. Alors je voulais donc remercier Jean-Paul Lecoq de ses explications. C'est un petit peu bref, mais on peut pas techniquement faire autrement. Donc Jean-Paul, je te laisse le mot de la fin, mais juste en une phrase, si c'est possible, ou deux.
Non, moi, comme je sors d'un mandat où j'étais député à la commission des affaires étrangères, il y a aussi ce que les gens n'ont pas forcément en tête, toute la question de la France, sa politique internationale. Et comme on est dans une période où la guerre en Ukraine, où les questions de la paix sont posées, où les questions de la bombe atomique peuvent être posées par rapport à des conflits de cette nature-là, je pense qu'il faut aussi que nos concitoyens soient attentifs à la fois à ce qui se passe chez eux, à côté de chez eux, dans leur vie quotidienne, mais au fait qu'au Parlement, on peut aussi peser sur des grands choix à l'échelle internationale, de à qui on vend des armes, de à qui... et tout ça, ça reste encore secret. Donc moi, par exemple, je défends l'idée que ça soit public, les ventes d'armes. Quand, dans bien des démocraties, ça peut pas être du secret défense, où c'est le business passe avant la paix, passe avant les relations de droit des peuples, du respect du droit international. Et ces sujets-là, aujourd'hui, sont au cœur de la problématique qu'on vit dans notre actualité. Et je pense qu'il ne faut pas se désintéresser. Donc je milite aussi sur ces sujets-là, le désarmement nucléaire, les ventes d'armes, et puis la diplomatie parlementaire, ça existe, ça s'appelle comme ça. Et il faut aussi peser, donc attentif au local, mais attentif aussi au global. C'est ce que j'essaie de faire en matière de politique.
Merci Jean-Paul. Pour ce qui me concerne, en tout cas, j'en profite pour faire une petite page de publicité locale. Cette fois-ci, on parle de l'international pour arriver au local. Le jeudi 26 mai à 17h30, sur la route départementale entre Lexos et Fenrol, sur le, au café associatif Le Boui-Boui, à 17h30, une conférence débat sur le thème « Quelle énergie propre et sûre pour demain ?» Voilà pour ce qui était de ma petite page de publicité, en remerciant donc Jean-Paul Lecoq, député communiste sortant, de nous avoir donné toutes ces explications.
Merci à vous en tout cas, et salutations à tous les auditeurs.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier, à retrouver en podcast sur cfmradio.fr, rubrique CFM Caylus.
Il est plus petit que le jardin de ma tante.
Oh, c'est pas vrai.
Ah bah si. Et mon patron, il change de costume deux fois par jour. Oh,